Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aimez-vous vraiment le bon Dieu? Cherchez-vous à lui rendre adoration, culte comme il le mérite? Soupirez-vous après le royaume céleste? Vous acquittez-vous envers le bon Dieu de tous vos devoirs? Je pense que oui. Alors le démon va se déchaîner contre vous. Dieu dit, parce que tu étais agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation t'éprouve. Et le catéchisme du Concile de Trente fait remarquer que certaines personnes, même chez les chrétiens, trouvent que nous exagérons lorsque nous parlons des conditions de la lutte, lorsque nous parlons de la tentation, des épreuves et des tentations envoyées par le démon. Et le Concile de Trente dit, évidemment, ce sont des gens qui glissent tout doucement vers le mal et donc à terme vers l'enfer. Le démon aurait bien tort de se manifester à eux, ce qui risquerait de les réveiller. Il les laisse descendre tout doucement. Le bon père Bariel, notre directeur spirituel à Écône, ajoutait que ceci est valable non seulement pour ceux qui vivent dans le péché et que le démon n'a pas intérêt à secouer, mais également pour les tièdes, ceux qui se laissent aller tout doucement et qui glissent tout doucement, parce que le démon sait bien qu'un jour, il cueillera le fruit mûr. Dans les sept demandes du Pater Noster, il y en a une, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Et une autre, délivrez-nous du mal. Celle qui va nous occuper aujourd'hui, c'est ne nous laissez pas succomber à la tentation, ou bien en latin, et nenos induca sin tentationem, ne nous induisez pas dans la tentation, ne nous mettez pas sur le chemin de la tentation. Non pas que je veuille faire un commentaire du pater, mais puisque j'ai décidé de vous éclairer sur les conditions concrètes de la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et ça je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir, quand on voit le drame, quand on voit la persécution, quand on voit la haine contre Dieu aujourd'hui, vous êtes très nombreux à vous demander si ce ne sont pas déjà les temps de l'Apocalypse. Alors nous avons besoin de lumière là-dessus. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un colonel qui avait remarqué un sous-officier vertueux, de valeur, et il aurait bien aimé lui donner sa fille en mariage. Il y avait bien des officiers, mais malheureusement, le colonel trouvait que ceci n'était pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un officier, et c'est pourquoi il avait jeté son regard sur le petit sous-officier. Évidemment, quand on est colonel, surtout que celui-ci était d'un rang élevé dans la société, on ne donne pas sa fille en mariage à un petit sous-officier comme cela. Comme c'était la guerre, le colonel décida d'envoyer ce sous-officier dans une mission très difficile, un peu périlleuse, pas strictement dangereuse, parce que le colonel allait donner à ce sous-officier tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir glorieusement sa mission. Il faudrait évidemment que le sous-officier soit attentif, prenne bien soin d'obéir aux consignes et agisse avec intelligence, prudence, vertu, c'est évident. Il appelle donc le sous-officier et lui dit, sans lui révéler le fond de sa pensée, il lui dit qu'il a décidé de l'envoyer dans cette mission très difficile. Le sous-officier peut réagir de plusieurs manières. La première, s'il a mauvais esprit, il pourra dire « oui, c'est cela, le colonel s'est aperçu que j'appréciais sa fille et il ne veut pas me la donner, et alors il m'envoie dans une mission dans laquelle il espère bien que je vais périr et ne pas revenir. » Ça, c'est du mauvais esprit. Le sous-officier peut réagir tout à fait différemment et dire « puisque le colonel me fait confiance, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'important, et par conséquent, je vais mettre tous les moyens pour répondre à sa confiance. » Parce que les moyens, je vous l'ai dit, étaient efficaces, et que le sous-officier s'est conduit comme il le fallait, il revient glorieusement, et même on lui accorde une décoration, la médaille militaire. Le colonel peut ainsi annoncer qu'il accorde sa main à ce jeune sous-officier de valeur. Et tant pis pour les officiers qui s'en croyaient dignes et qui n'ont pas compris les choses. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de Dieu. L'Écriture sainte prend souvent l'exemple des épousailles pour nous faire comprendre la bienveillance de Dieu et ce que Dieu attend de nous et la mission qu'il nous confie ici-bas sur terre. Pratiquement, avec cette histoire, je n'ai quasiment plus besoin de faire le sermon, mais il y a une très belle page dans le catéchisme du Concile de Trente. Vraiment, on voit là des pasteurs, tous ces évêques du Concile de Trente, un peu comme Monseigneur Lefebvre, comme Saint Jean Chrysostome, comme Saint Augustin, qui sont préoccupés des conditions concrètes qui avertissent des difficultés, qui encouragent, qui donnent les moyens, qui surtout ne cachent pas les difficultés de la vie ici-bas. Nous sommes in ac lacrimarum valle, c'est le Salve Regina, nous sommes dans une vallée de larmes, ils ne viennent pas nous dire que nous sommes dans une vallée avec des roses. Par contre, comme saint Paul, il nous annonce que la victoire nous sera donnée dans l'au-delà et qu'elle sera merveilleuse. Donc l'homme est toujours tenté. C'est une nécessité. Il n'est pas possible que la vie soit autrement. Je vous l'ai dit, la tentation aurait dû être douce et facile, l'épreuve aurait dû être douce et facile. À cause du péché originel, elle est maintenant dans le sang et dans les larmes. Mais de toute façon, l'épreuve est nécessaire. On n'entre pas comme cela dans le royaume de Dieu. Vous avez trois types de tentations. Je vais suivre le catéchisme du Concile de Trente qui dit que tenter, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve. Et il y a trois types de tentations. La première, pour arriver à connaître ce que nous désirons savoir parce que nous l'ignorons. Il est évident que Dieu ne tente pas de cette manière-là. Deuxièmement, mettre à l'épreuve en vue du bien. Ça, c'est notre colonel. Tout d'abord, constater et manifester la vertu de quelqu'un. Deuxièmement, pouvoir ainsi récompenser cette vertu. L'Écriture sainte nous dit « Celui qui combat dans la carrière ne sera couronné qu'après avoir légitimement combattu. Bienheureux l'homme qui souffre la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Vous vous rappelez Saint-Pierre qui pose la question à notre Seigneur, « Seigneur, qu'en sera-t-il pour nous qui avons tout quitté pour vous suivre ?» Et notre Seigneur dit « Vous recevrez le centuple et le royaume des cieux. » Donc, manifester la vertu, récompenser, proposer un exemple à imiter par les autres. Et enfin, engager tout le monde à louer et à bénir le Seigneur, puisque, évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier sermon, c'est lui qui donne la victoire. Donc cette manière de tenter est bien la seule qui convienne à Dieu, c'est une évidence. Et voici ce que dit le Concile de Trente, enfin le catéchisme du Concile de Trente. Dieu tente les siens lorsqu'il les accable par la pauvreté, par la maladie, etc. Mais il n'agit ainsi envers eux que pour éprouver leur patience, afin qu'ils deviennent pour les autres des modèles de vertu chrétienne. Et l'Écriture sainte nous a donné des exemples. Abraham, qui reçoit l'ordre d'immoler son propre fils. Tobie, parce que vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation vint vous éprouver. Encore une fois, lisez le livre de Rose U et tous les livres sur les chrétiens persécutés aujourd'hui. Donc, nous sommes plongés dans la tentation et tout va bien. Troisième type de tentation, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve en vue du mal, pour le pousser au péché ou à sa perte. Et cela, c'est le propre du démon, qu'on appelle pour cela le tentateur. Et le Concile de Trente va donner la liste, mais ça j'y reviendrai dans d'autres sermons, parce que justement, c'est ça que je vais vous faire comprendre, et que je veux déjouer les pièges du démon et vous aider à vivre en bon chrétien. Donc je développerai cela plus tard. Premièrement, il excite en nous les désirs et les mouvements déréglés de nos passions et de nos affections mauvaises. Deuxièmement, il se sert des choses extérieures pour nous enorgueillir, si elles sont heureuses, les événements, voyez, pour nous abattre si elles sont malheureuses, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, voyez. Le démon cherche à nous abattre. Ça va mal et les gens sont inquiets et abattus. Troisièmement, il prend comme complices les hommes pervertis. Et le Concile de Trente nous fait remarquer surtout les hérétiques qui sont assis dans la chair de pestilence et qui répandent le poison mortel de leur doctrine malsaine. Et nous y reviendrons cela sur la doctrine du démon pour nous faire tomber. Il a mis beaucoup de temps là, mettre au point et surtout à faire en sorte que nous l'écoutions, mais aujourd'hui, hélas, cette doctrine est devenue quasiment générale. Le Concile de Trente étudie, et ça je pense que vous avez besoin de cette explication, parce que qui ne s'est pas posé la question, « Et nenos inducas in tentationem », ne nous mettez pas sur le chemin de la tentation. Et lui, il y a deux manières de mettre sur le chemin de la tentation. La première, lorsqu'on est renversé par le choc et nous tombons dans le mal où veut nous jeter notre tentateur. En ce sens, Dieu ne tente et n'a jamais tenté personne, c'est d'une évidence, car il déteste tous ceux qui commettent l'iniquité. Et saint Jacques précise que personne ne dise quand il est tenté que c'est Dieu qui le tente, car Dieu n'est point tentateur pour le mal. Et nous sommes un petit peu surpris lorsque nous écoutons ça. Nous disons alors, pourquoi y a-t-il la tentation si elle ne vient pas de Dieu? Mais c'est la phrase de saint Jacques, n'est point tentateur pour le mal. Mais il tente, c'est-à-dire qu'il met dans l'épreuve, pour le bien. C'est toujours la même chose, c'est la fin qui donne sa qualité aux actions. Deuxièmement, être induit en tentation. On dit cela de quelqu'un qui, sans nous tenter lui-même, sans même contribuer à nous tenter, cependant n'empêche pas la tentation, ni la victoire de la tentation sur nous, bien qu'il le pourrait, bien qu'il le puisse. Et c'est de cette manière que Dieu permet que les bons et le juste soient tentés. Mais alors, il les soutient de sa grâce et ne les abandonne point. C'est-à-dire que Dieu laisse quelqu'un être tenté par le mal, soit parce que lui transforme cette tentation en une tentation pour le bien. Vous imaginez notre petit sous-officier qui serait poussé à la révolte par ses camarades. Le colonel ne t'aime pas, il t'en veut, n'accepte pas, ce n'est pas normal, etc. Et le colonel qui ne dirait rien, qui ne ferait rien, parce que justement, il pourrait éviter cela. Il pourrait intervenir. Mais il ne le fait pas parce que Si le jeune sous-officier triomphe, à ce moment-là, cette tentation qui était pour le mal du côté du tentateur devient pour le bien du côté de Dieu. Quelquefois, il arrive que Dieu soustrait son aide comme punition de nos péchés. Quelqu'un qui est vraiment, surtout les péchés contre le Saint-Esprit, le bon Dieu retire son aide, et à ce moment-là, saint Thomas d'Aquin nous dit que le péché est la punition pour le péché. Le Concile de Trente nous dit, mais je ne voudrais pas trop prolonger ce sermon, il nous donne l'exemple de Jérusalem, qui avait reçu une mission extraordinaire. Les habitants de Jérusalem, le peuple qui habitait Jérusalem, et dont nous n'avons pas le droit de dire le nom aujourd'hui, mais vous avez très bien compris, les habitants de Jérusalem avaient reçu une mission extraordinaire, mais ils se sont enorgueillis. Dieu leur avait donné énormément de qualités pour cette mission, et Jérusalem en a abusé, les habitants en ont abusé. Et le Concile de Trente nous fait remarquer, cela ressemble à cette ville ingrate qui, pour offenser Dieu, se servent précisément des moyens si nombreux que Dieu leur avait donnés pour faire le bien. C'est un autre type de tentation, vous voyez, c'est lorsque Dieu donne beaucoup de choses pour faire le bien et qu'on s'enorgueillit. Que demandons-nous à Dieu dans le Pater? Ne nous laissez pas succomber à la tentation ou ne nous mettez pas sur le chemin de la tentation. Réponse du Concile de Trente, nous ne demandons point de n'être jamais tenté, car la vie de l'homme sur la terre est une tentation. Et il nous est utile et avantageux qu'il en soit ainsi. Et oui, si nous demandions à ne pas être tentés, alors notre vertu ne serait pas manifestée, et j'allais dire même elle ne serait pas renforcée. Nous n'aurions pas les grâces de Dieu qui vont être plus fortes que la difficulté à vaincre, et nous serions dans une terrible médiocrité. Nous n'aurions pas la récompense. Nous n'aurions pas d'exemple à donner. Et je vous ai dit que l'exemple est important, puisque au jugement dernier, nous serons jugés aussi sur les conséquences de nos exemples, et qui nous suivent, et quelquefois longtemps après. Demander à ne pas être tenté, c'est vraiment n'avoir rien compris. J'allais dire, c'est presque demander à ne pas aller au ciel. Alors ce que nous demandons dans le Pater, dans notre Père, c'est d'être toujours assisté par le secours divin, afin de ne pas consentir à la tentation, de ne pas nous laisser séduire par elle. Pourquoi cela? À cause de ce que je vous ai dit dans le sermon précédent, nous n'avons pas la capacité seule pour obtenir la victoire. Et si le bon Dieu nous éprouve et permet que nous soyons tentés, c'est parce qu'en réalité, il nous associe à son combat, à son propre combat, un combat glorieux, extraordinaire, dans lequel il a mis déjà ses ennemis comme escabeaux sous ses pieds, et nous devons chérir les conditions de la tentation qui vont nous permettre à nous aussi d'amplifier le triomphe du Christ et de partager le triomphe du Christ. C'est ce que dit le Concile de Trente. Ne perdons jamais de vue le chef que nous devons suivre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement nous a montré comment on remporte la victoire, mais qui en plus a partagé nos infirmités, ce qui fait que nous suivons un chef qui ne reste pas extérieur à la lutte, comme un entraîneur sportif, vous voyez, qui reste en dehors de la compétition. Non, nous suivons quelqu'un qui a tout pris sur lui, et beaucoup plus encore que ce qui nous éprouve nous. Toutes les épreuves que nous subissons, il les a subies lui-même. Prenons garde de nous complaire en nous-mêmes. C'est un avis aux traditionalistes. C'est un avis aux bons chrétiens, aux bons chrétiens que nous sommes. Nous ne faisons pas attention, que nous fuyons la tentation. Et que cela est très grave, parce que cela va nous priver de la victoire du Christ. Deuxièmement, Nous ne nous rendons pas compte que si Dieu nous a donné tant et tant de dons et de grâces, c'est pour mener sa mission, comme Jérusalem, et non pas pour nous enorgueillir. Troisièmement, nous oublions que nous sommes pris dans un combat qui n'est pas le nôtre personnel strictement, qui est le combat de toute l'Église. Celui qui vaincra possédera ces choses. C'est ainsi que termine le Concile de Trente par cette citation. Courage, petit troupeau, j'ai vaincu le monde, dit notre Seigneur à ses disciples, et si vous avez bien compris ces choses, si vous avez bien compris l'utilité de l'épreuve et donc de la tentation, alors vous n'aurez aucune difficulté à entrer courageusement dans les épreuves qui nous attendent, d'autant plus que vous aurez l'aide de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints. Monseigneur Lefebvre, priez pour nous. Saint Martyr, priez pour nous. Toute la cour céleste, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.